C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur
Si vous nous rejoignez, nous sommes à Nantes, dans l'ouest de la France, à la Cité des Congrès où s'est déroulé pendant 3 jours le sommet Climate Change qui a réuni des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre les changements climatiques. 300 intervenants de plus de 60 pays, ONG, entreprises et élus, car les solutions pour gérer les villes de façon durable ont beaucoup été discutées ici. Il faut rappeler que 2/3 de la population mondiale habite désormais dans des zones urbaines qui sont responsables de 80% de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors avec nous, pour en parler, 4 invités. Agathe Cavicchioli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert climat du réseau des villes ICLEI, je vous laisse nous présenter.
Merci beaucoup de me donner l'opportunité de vous présenter mon réseau. En effet, l'organisation que je représente, ICLEI, est un réseau de gouvernements locaux, de villes et de collectivités territoriales à travers le monde. Et cela fait plus de 25 ans que nous nous engageons à promouvoir et soutenir leur action en termes de lutte contre le changement climatique et plus globalement de développement durable.
Et alors vous réunissez combien de villes?
À ce jour, notre réseau s'étend à plus de 1500 villes à travers le monde, sur tous les continents. Et cela correspond à un impact sur à peu près 25% de la population urbaine globale.
Oui, donc c'est très important. Et de pays en développement, de pays développés, tout...
Oui, absolument. Les membres de notre association sont des villes et collectivités territoriales de toute taille et de tout pays, de tout niveau de développement et surtout de tout niveau d'avancement, en tout cas dans la planification climatique et le développement durable.
J'imagine, on va en reparler. À vos côtés, Jean-Pierre Longbassi, bonjour.
Bonjour madame.
Alors vous êtes le secrétaire général de Cité et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique, que je vous laisse présenter aussi en quelques mots.
Oui, Cité et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique est l'organisation panafricaine des collectivités locales, qui regroupe les 40 associations nationales qui existent et près de 2000 villes en Afrique. Mais CGLU Afrique fait partie de la grande famille CGLU, qui est l'organisation mondiale des collectivités locales, qui couvre toutes les régions du monde et qui est en fait la plus importante organisation politique des collectivités locales, qui représente la voix des collectivités auprès des Nations Unies, au sein de laquelle elle a créé ce qu'on appelle la Global Task Force, avec des organisations comme ICLEI, CIFOTI, RV.
Vous travaillez ensemble quand même.
Nous travaillons ensemble. Et nous considérons ICLEI comme notre arme climat.
Votre arme climat, pourquoi? Voilà. Parce qu'ils sont plus avancés sur le climat.
C'est-à-dire qu'ils se sont spécialisés dans ce domaine-là depuis très longtemps. Et moi, je connaissais bien le GEB qui a été le créateur de cette affaire. Et au début, ça fait bien longtemps, ils étaient, après Rio, très sensibilisés sur ce que les collectivités locales devaient jouer comme rôle dans la gestion du climat et du développement durable. Et ils se sont beaucoup engagés là-dedans. Et si vous voulez, c'est un peu notre locomotive dans ce domaine-là.
Alors j'espère que quand même en Afrique et au sein de CGLU, vous faites aussi des choses pour le climat. On va en parler dans un instant, mais je vous présente la suite de nos invités. Gorgui Barrault, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes vice-président de la commission environnement de la ville de Sokone. Alors Sokone, c'est dans l'ouest du Sénégal. Vous nous présentez votre ville en quelques mots?
Oui, nous sommes une petite ville de 17 000 habitants à l'ouest du Sénégal, à peu près 200 km de Dakar.
Et c'est une ville où il y a une des plus belles baies du monde.
Oui, nous faisons partie, c'est pas moi qui le dis, c'est l'UNESCO. Sokone fait partie des plus belles baies du monde.
Alors à la radio, on n'a pas l'image. Hein. De toute façon, vous êtes à Nantes, vous n'êtes pas à Sokone. Mais c'est pourquoi c'est une très belle baie? Parce qu'il y a des mangroves, c'est ça?
Parce que nous avons la mangrove. C'est une forêt de mangroves qui s'étend sur des milliers d'hectares. Mais aussi, c'est une zone ornithologique. Et aussi, c'est une zone de reproduction des poissons.
Et c'est une ville où il y a une forte mobilisation citoyenne, vous nous en parlerez dans un instant. Et à vos côtés, Julie Lahernouz, bonjour.
Bonjour.
Alors comme on est à Nantes, hein, il fallait bien qu'on invite une élue nantaise. Vous êtes vice-présidente en charge de la transition énergétique, du climat et du développement durable. Nantes, bon, c'est une autre dimension que Sokone, hein, 17 000 habitants. Vous, si on fait Nantes métropole, c'est...
Nantes métropole, c'est 24 communes et 600 000 habitants à peu près. Donc on est dans les villes moyennes, mais on est la 6e ville de France.
Nantes qui avait quand même été élue capitale verte de l'Europe en 2013.
Tout à fait, mais pour nous c'était important de ne pas reposer sur nos lauriers et justement d'aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on a quand même une responsabilité en tant que ville en pays européen de montrer un peu le chemin et d'aller au-delà des objectifs qui sont fixés à l'échelle internationale.
Alors, Agathe Cavicchioli, Jean-Pierre Elombassi disait vous êtes la figure de proue de la politique climat des villes. Alors, en gros, quels sont les grands défis aujourd'hui pour les villes? Je disais, elles produisent 80% des émissions de gaz à effet de serre, abritent 2/3 de la population mondiale et ça augmente.
Bien sûr. Les défis auxquels font face les villes à travers le monde sont multiples, mais pour en citer quelques-uns qui concernent à la fois les grandes métropoles développées, telles que les métropoles françaises, les métropoles américaines, australiennes, mais qui concernent aussi les villes de pays émergents, sont par exemple des défis en termes de transition énergétique, d'efficacité énergétique. Dans les buildings, notamment.
Transition énergétique, ça veut dire s'émanciper des énergies fossiles.
S'émanciper des énergies fossiles, augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Et nous voyons des exemples absolument fantastiques à travers le monde de villes qui s'engagent à atteindre jusque 100% d'énergie renouvelable dans leur mix énergétique, ce qui peut donner des idées, je pense, à plusieurs nations autour du monde. En tout cas, c'est très, très encourageant. Et puis, il y a aussi la qualité de l'air, qui est très importante, qui est un des co-bénéfices de l'action climatique, qu'il ne faut pas négliger dans la planification urbaine, qu'il ne faut pas négliger dans la planification des transports en milieu urbain. Et cela vaut autant, comme je le disais, pour les grandes métropoles développées d'Europe, d'Amérique, que les grandes villes en pleine croissance à travers l'Asie et en Afrique.
Donc, transport, performance énergétique, donc ça veut dire mieux isoler, en gros, améliorer l'habitat, et puis transition énergétique. Pour vous, ce sont les trois grands défis.
Et au-dessus de tout ça, je noterais aussi la gestion intégrée de l'atténuation du changement climatique, ainsi
limiter
que
ses émissions
de
gaz à effet de serre et
c'est
s'adapter
exact.
Aux conséquences.
On ne peut plus faire l'un sans l'autre. Il faut que l'on agisse de manière intégrée et que l'on réduise à la fois son impact. En même temps, il faut se préparer à ce que l'on ne pourra pas éviter. Et c'est, je pense, une priorité.
Jean-Pierre Elombassi, comment vous traduisez ça sur le continent africain ?
D'abord, le continent africain est original à plusieurs titres. Le premier, c'est que en 2050, ce sera le pôle de peuplement le plus élevé au monde. Que la vitesse d'urbanisation est inédite dans l'histoire. Il a fallu 100 ans pour que Paris passe de 500 000 habitants à 1 million d'habitants. 50 ans pour New York. 25 ans pour Lagos. Lagos, c'est chaque année,
Nigeria.
500 000 habitants s'ajoutent à Lagos. Lagos est aujourd'hui à peu près 16 millions d'habitants. On prévoit que dans des années qui viennent, ce sera une des plus grande métropole du monde. Et tout ceci dans un univers de pauvreté majoritaire. Alors, quelles sont les grandes questions qui se posent aux Africains? La première, c'est quand même l'accès à l'énergie. Partout ailleurs, on dit il faut décélérer. Ici, il faut accélérer. Évidemment, quand on voit et la vitesse et les masses concernées, il faut qu'on prenne tout de suite une trajectoire durable. Donc, il faut que la transition écologique et pas simplement énergétique soit au cœur de notre modèle de développement. Et cette transition écologique interroge les modèles actuels mis en œuvre, y compris dans les pays qui nous ont précédés sur le voie du développement. La question qui est posée sur la densification des villes africaines est une question qui ne doit pas être posée en dehors du fait que la plupart des services ne sont pas accessibles. Le service de l'eau n'est pas accessible. Le service de l'assainissement n'est pas accessible. Le service de l'énergie n'est pas accessible. La meilleure option, dans le cas où ces services ne sont pas accessibles, c'est encore de se développer de façon étendue. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, quelque part, il y a un niveau de service qu'on doit pouvoir réaliser et qui permettrait alors, à ce moment-là, de passer vers un processus de densification. Mais dès maintenant, il faut qu'on prenne résolument la décision de suivre une trajectoire de transition écologique.
Oui, mais alors ça, j'ai envie de dire, c'est pas dans cette émission qu'on va vous contredire. En même temps, c'est difficile pour les élus de comprendre qu'il faut raisonner autrement, parce que même justement l'aide de coopération décentralisée, l'aide au développement, toutes ces choses-là se font plus sur des schémas anciens où on va plus facilement, par exemple, chercher du fossile que du renouvelable.
C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes ici non pas pour répéter ce qui s'est passé et qui s'est parfois bien passé, mais pour découvrir les limites de ce qui s'est passé. Et quand on a découvert les limites de ce qui s'est passé, il ne faut pas aller droit au mur. Il faut changer. Parce que si on ne change pas, ce n'est pas soutenable pour nous et ce n'est soutenable pour personne.
Et alors, est-ce que vous avez l'impression que, justement, il y a des villes, quand même, qui, en Afrique, s'emparent de ces enjeux-là avec...
Beaucoup de villes. Et il y a beaucoup de villes qui s'interrogent. Mais prenez Cape Town, prenez Johannesburg, prenez Dakar, prenez les villes marocaines. Toutes ont des plans climat. Kampala est en train d'en développer un. Tout le monde est en train d'aller vers cette recherche d'efficacité énergétique et cette transition écologique. Évidemment, nous sommes plombés en partie par le concept d'hier. Il faut donc inventer des concepts de demain. Et c'est tout le travail que nos organisations sont en train de faire. Par exemple, tout ce qui concerne l'économie circulaire, par exemple, la relocalisation des activités, les immeubles neutres en émission. Tout ceci est en cours. Et je pense qu'il faut regarder les choses qui émergent, mais aussi être conscient que ça prendra du temps.
Mais ça prendra du temps, notamment parce que ça demande des moyens financiers. Il y a quand même un vrai problème pour les villes, en Afrique, mais dans le monde, d'accès à la finance.
Je suis d'accord avec vous. Le calcul qui a été fait par la coalition qui s'occupe des financements, elle parle de 5 000 milliards pour l'atténuation et 500 milliards pour l'adaptation, et ceci par an. L'aide publique au développement est péniblement, ce qu'on invente, c'est 100 milliards. Et puis, ce que gèrent vraiment les collectivités locales en Afrique, c'est Epsilon. Donc, on est loin du compte. Pourtant, il faut aussi s'interroger sur comment on chiffre. Parce que si on chiffre de la même manière qu'on chiffrait avec les concepts d'avant, par exemple, est-ce qu'on chiffre l'accès à l'énergie à partir des réseaux d'électricité ou à partir du solaire? C'est peut-être un peu différent. Donc, quelque part, les paquets technologiques sont aussi interrogés. Et tout ça demande une approche nouvelle. Et je pense qu'on doit y travailler.
Alors, cette approche nouvelle, elle est mise en place par les élus sur le terrain. On en parle juste après ça.
J'avoue que c'est bon de se barrer à la mer ou à la campagne. Quand tu ressens ce besoin et que ton envie de verdure t'accompagne. Nouvelles couleurs, nouvelles odeurs, ça rend l'essence euphorique. Respirer un air meilleur, ça change mon bout de périphérique. Est-ce que t'as déjà bien écouté le bruit du vent dans la forêt? Est-ce que t'as déjà marché pieds nus dans l'herbe haute? Je voudrais surtout pas représenter l'écolo relou à 4 centimes. Mais la nature nourrit l'homme, et rien que pour ça faut qu'on l'estime. Donc la nature je la respecte, c'est peut-être pour ça que j'écris en vers. Mais c'est tout sauf mon ambiance, j'appartiens à un autre univers. Si la campagne est côté face, je suis un produit du côté pile. Là où les apparts s'empilent, je suis un enfant de la ville. Je ressens le cœur de la ville qui cogne dans ma poitrine. J'entends les sirènes qui résonnent, mais est-ce vraiment un crime d'aimer le murmure de la rue et l'odeur de l'essence? J'ai besoin de cette atmosphère pour développer mes sens. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je trempe ma plume dans l'asphalte, il est peut-être pas trop tard pour voir un brin de poésie, même sur nos bouts de trottoir. Le bitume est un shaker où tous les passants se mélangent. Je ressens ça à chaque heure et jusqu'au bout de mes phalanges. Je dis pas que le béton c'est beau, je dis que le béton c'est brut. Ça sent le vrai, l'authentique, peut-être que c'est ça le truc. Quand on le regarde dans les yeux, on voit que s'y reflètent nos vies. Et on comprend que slam et hip-hop ne pouvaient naître qu'ici. Difficile de traduire ce caractère d'urgence qui se dégage et qu'on vit comme une accoutumance. Besoin de cette agitation qui nous est bien familière. Je t'offre une invitation dans cette grande fourmilière. Je suis allé à New York, je me suis senti dans mon bain. Ce carrefour des cultures est un dictionnaire urbain. J'ai l'amour de ce désordre et je ris quand les gens se ruent comme à l'angle de Broadway et de la 42e rue. C'est que je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, installé à la Cité des Congrès de Nantes à l'occasion du sommet Climate Change. Nous parlons de la gestion durable des villes avec nos invités. Alors Gorgui Barreau, vous êtes venu à Nantes, vous, pour parler de votre ville de Sokone, dans l'ouest du Sénégal, ce que vous faites dans votre ville, et puis aussi pour apprendre de ce que font les autres. Alors expliquez-nous, Jean-Pierre Elongbassi disait, les défis pour les villes sont énormes. Vous, à Sokone, vous avez pris, j'ai envie de dire, le taureau par les cornes.
Oui, on a eu une initiative à Sokone, parce que comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous sommes dans la zone de mangrove, c'est-à-dire la mangrove, le côté terrestre et le côté aquatique, c'est deux mondes qui se côtoient mais qui ne se ressemblent pas. Alors, les sécheresses successives ont fait que les gens ont beaucoup déforesté, et cette déforestation a amené les eaux de ruissellement à entraîner avec elle le sable. Le sable a ensablé, excusez-moi de la répétition, le bolong, c'est-à-dire le canal d'accès. De sorte que Sokone est devenu, le bolong de Sokone, c'est-à-dire le canal de Sokone, est devenu presque inutilisable. Alors quand on va à la pêche, il faut attendre que la marée monte pour venir, etc. Ce qui a saboté le business de la pêche. Alors lorsque nous sommes venus, ce que nous avons fait d'abord, c'est que nous avons conscientisé les populations, leur montrer que nous sommes dans un milieu fragile. C'est beau, mais c'est fragile. Alors nous avons d'abord fait de Sokone une AMP, une aire marine protégée. Ça, nous l'avons. Mais après, ensuite, nous avons pris l'initiative d'organiser un téléthon. L'objectif du téléthon était d'acheter une machine qui nous permettrait de draguer le fleuve. Alors tout le monde a participé, de l'écolier, journalistes, médecins, vendeurs de poissons, tout le monde, taximans, ministres, etc. Alors, ça a fait grand bruit, ça a ému, c'est allé jusqu'aux autres autorités du pays. Le président de la République en était informé. Il a participé à hauteur de 10 millions de francs CFA. Alors, ça a fait le tour du pays. Les gens sont devenus sensibles, l'État a pris le taureau par les cornes, et maintenant ce n'est plus un projet de Sokone, mais c'est désenclaver les îles du Saloum à travers Sokone. Maintenant, heureusement, nous avions eu un compte Facebook, c'était une gestion propre, nous avons pris des gens qui sont connus pour leur probité.
Oui, on peut aller sur Facebook, et sur la page J'aime Sokone, et on voit tout ce que vous avez fait.
Toutes les informations.
Et donc, ça ne vous a pas suffi pour finalement acheter la machine qui vous permettait de nettoyer complètement le canal, mais vous avez pu quand même faire quelques travaux.
Bon, nous avons 20 millions. 20 millions ne peuvent pas acheter la machine, alors la machine coûtait 500 millions. Mais comme l'État se charge maintenant du projet, nous avons pris les 20 millions pour faire une société qu'on appelle la CIADEL, c'est-à-dire une société d'aménagement des territoires, etc. Alors nous, par exemple, pour donner un exemple concret, à part partager nos expériences et se faire connaître, nous sommes là, par exemple, si permettons que Nantes ait, par exemple, une benne à ordures endommagée ou qu'elle n'utilise plus, nous pouvons la récupérer. Nous payons le transport, nous payons les frais de douane et nous l'amenons à Sokone pour mieux gérer nos ordures. Donc nous sommes là pour chercher des partenariats, pour nous faire connaître, mais aussi pour partager notre expérience.
Alors Julie Lernoux, vous êtes donc, je disais, élue à Nantes en charge de la transition énergétique. Alors vous aussi, vous faites participer les citoyens finalement, alors pas sur la même forme qu'à Sokone, mais pour la transition énergétique, vous avez lancé un grand débat.
Mais ça pourrait prendre la forme de Sokone, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a, comme toutes les villes françaises, qui sont dans l'obligation d'avoir un plan climat. Air énergie territoriale, mais la question c'est plus comment on fait participer chacun. On a évalué nos émissions de gaz à effet de serre, on avait un plan climat avec comme objectif diminuer de 30% nos émissions en 2020, et on voyait avec l'évaluation des mesures qu'on avait prises qu'on arrive à cet objectif-là. Et juste avant la COP21, on a adopté l'objectif des moins 50% en 2030. Et là, on voit que tout seul, nous n'y arriverons pas. Ce n'est pas uniquement grâce à nos politiques publiques. Et donc, l'idée était... Enfin, on est obligé d'aller chercher tous les partenaires sur le territoire pour dire on a fixé cet objectif pour le territoire, mais il faut ensemble tracer le chemin.
Comment vous faites pour parler transition énergétique aux gens? Parce que c'est un débat qui semble souvent ennuyeux, technique.
Tout à fait. Et pourtant, ça agit sur le quotidien de chacun. Et donc, c'est une question qui est essentielle. Et pour autant, elle est difficile à expliquer et elle est difficile à concrétiser. Et donc, sur ce débat, on a voulu d'une part rendre le climat et l'énergie plus concrets. Mais de l'autre, passer à l'action. Parce qu'on a beaucoup discuté aussi du climat, des enjeux de transition énergétique. Il y a une loi sur la transition énergétique en France. Donc, globalement, les gens ont ces termes et ne savent pas exactement ce qu'il y a derrière et ce que ça implique sur le changement de comportement des entreprises, de soi-même dans sa vie quotidienne. Et donc, on a voulu un débat de l'action pour expérimenter. Parce que le rôle des collectivités territoriales sur la transition énergétique et le climat, c'est justement d'agir. C'est pas tellement de discuter, c'est vraiment d'agir avec tout le monde.
Et donc vous avez lancé ce débat le 13 septembre. L'objectif, c'est qu'il y ait une vingtaine de projets concrets qui en émergent. À quelle échéance ?
On ne veut pas faire un coup. C'est-à-dire, c'est pas on fait un grand débat pendant 6 mois et puis ensuite on prend 3 mesures qu'on adopte en conseil et puis c'est terminé. L'idée, c'est vraiment d'engager un pacte avec les acteurs du territoire sur le long terme. Et donc, c'est vrai qu'on a différentes communautés d'action avec des manières différentes de participer. Et il y a notamment les activateurs où chacun peut s'inscrire avec un projet qui va dans le sens de la transition énergétique, à qui on aidera à trouver des financements participatifs. Donc peut-être un téléthon à l'échelle de Nantes pour s'inspirer de ce qui se fait à Saucon.
Ah bah voilà le début d'une collaboration. Et vous n'avez pas 2-3 bennes à ordures qui traînent ?
Tout à fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, on a Nantes Métropole est présent dans un certain nombre de réseaux. Et c'est vrai que quand on a rediscuté notamment de la Convention des maires, pour nous, c'était important de réintégrer dans la Convention des maires la coopération décentralisée. Parce que les villes n'ont pas de moyens. On ne va pas abonder le fonds vert qui va servir au développement dans les autres continents. Mais par contre, on peut échanger les bonnes pratiques et faire en sorte. Et c'est ce qu'on fait. On a des coopérations notamment avec Chang ou avec Agadir sur les services de transport public ou sur la production d'énergie. Donc on est vraiment à focaliser toute notre action, y compris la coopération décentralisée, sur la transition énergétique et le climat.
Bon, alors vous aurez peut-être une petite discussion tous les deux après l'émission. Agathe Cavicchioli, on entend à travers ces deux exemples, bon, qui ne sont que deux parmi évidemment des millions de villes, mais qu'il y a cette idée de l'appropriation par les habitants des enjeux. C'est quelque chose que vous voyez partout ?
Absolument, c'est quelque chose que l'on voit partout et c'est quelque chose que l'on intègre systématiquement dans nos conseils aux villes, membres de notre réseau. Nous leur suggérons toujours systématiquement de s'engager dans des débats publics, dans des démarches participatives avec leurs citoyens afin de développer des plans climat ou des plans d'adaptation qui reflètent véritablement le contexte local, les préoccupations de la population et qui motivent la population à les mettre en place. On a une élue de la ville de Vancouver qui, je pense, décrit cela d'une façon très simple et qui nous parle à tous. Si les habitants écrivent le plan climat leur appartient et il sera appliqué. Et je pense que c'est quelque chose qui nous anime dans notre façon de travailler et c'est un principe essentiel pour la réussite.
Est-ce que vous avez des exemples comme ça dans les pays en développement ?
Bien sûr, récemment nous avons mis en place un large projet sur 4 ans qui a été financé par la Commission européenne qui s'appelle Urban Leads. Et grâce à ce projet, nous avons soutenu 8 villes dans des pays émergents qui sont le Brésil, l'Indonésie, l'Afrique du Sud et l'Inde. Et nous les avons aidés à développer des stratégies de développement à faible émission carbone. Et évidemment, dans la méthodologie de développement de cette stratégie, nous avons systématiquement organisé des workshops, des séminaires et des consultations participatives avec la population.
Jean-Pierre Lombassi, en Afrique, c'est quelque chose que vous observez en dehors du cas de Saucon ?
Oui, il y a une grande attention. Enfin, sachez que quand même, ce sont les collectivités territoriales africaines qui souffrent le plus des changements climatiques. Vous avez entendu notre collègue du Tchad hier qui vous disait que bon, c'est bien les conférences, mais sur le terrain, ça se passe pas bien et que arrêtons de parler, commençons à faire. Et les gens n'ont pas attendu sur le terrain pour faire parce qu'ils veulent pas mourir la gueule ouverte. Donc, ils prennent des initiatives. Le problème, c'est que parfois, on croit que ces initiatives sont mineures Et au lieu de se baser sur le potentiel de ces initiatives, on tend à les banaliser.
Vous pensez à quoi, par exemple?
Écoutez, tout ce que, par exemple, ce qu'il a, le téléthon de Sokoun, c'est quelque chose qui, qu'on peut trouver mineur. Bon, c'est pas à l'échelle des 500 millions pour acheter son appareil, mais c'est quand même une implication extraordinaire de la population. Et ça, c'est très important que chacun fasse sa part. Et que, on se donne la main. Le mot qui a toujours manqué dans tout ce qu'on dit là, c'est solidarité. Nous, les collectivités territoriales, on est les gardiens de la solidarité du monde. Les autres, la solidarité, on s'en soucie quand on n'a pas de problème. Et quand on a plus de problèmes, on l'oublie.
Vous voulez dire que ça marche mieux de ville à ville
que
d'État à État ?
Les collectivités territoriales sont les gardiens de la solidarité humaine. Et c'est... Ces relations humaines de collectivité à collectivité sont des relations de long terme. Je ne connais pas les relations de Nantes avec les autres villes du monde. Mais je suis sûr que dès que Nantes a commencé une relation, elle ne s'arrête plus. Elle continue, elle s'épaissit, elle s'enrichit. Parce que c'est comme ça. Nous gérons des gens. Nous ne gérons pas des chiffres. Nous ne gérons pas des taux. J'ai coutume de dire que lorsque des jeunes Africains meurent en traversant la Méditerranée, pour les gouvernements, ce sont des statistiques. Pour les maires, ce sont des funérailles. C'est toute la différence.
On a bien compris, en tout cas, que les défis étaient immenses. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. On vous réinvitera, hein, on suivra ce qui se passe à Sokoun et puis le bilan du débat sur la transition énergétique à Nantes. Restez sur RFI, dans quelques minutes, il y a juste le flash d'info et on se retrouve demain, même planète, même heure. Tous les